On va ouvrir la parole et de regarder en tout cas le texte que nous avons regardé ce matin. Je voudrais démarrer par une petite histoire. Une histoire vécue, une histoire peut-être que vous avez vécue personnellement. J'ai trouvé ça sur internet, j'ai trouvé ça très intéressant, alors je voudrais vous la raconter avant de démarrer la prédication de ce matin. Mais cette histoire est bien sûr en parallèle avec la prédication et l'exhortation qui sera donnée, puisque vous allez comprendre assez rapidement que cette introduction va apporter la prédication par la suite. C'est l'histoire d'un petit garçon et de ses boissons. En plein hiver, une institutrice de maternelle aide les enfants à s'habiller pour aller à la récréation. Un des enfants a besoin d'aide pour enfiler ses bottes. Après avoir poussé, tiré, repoussé et retiré dans tous les sens, les bottes sont enfin chaussées. Le gamin dit alors à la maîtresse, « Elles sont à l'envers, maîtresse. » Constatant de l'inversion des pieds, l'instit les enlève difficilement, galère autant pour les remettre et parvient à les enfiler. L'enfant lui dit cette fois-ci, c'est pas mes bottes, maîtresse. L'instit se mord les lèvres pour garder son calme et lui répond, pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Le gosse, conscient d'avoir contrarié sa maîtresse, ne répond pas. Il la laisse enlever de nouveau les bottes avant de lui préciser, c'est pas mes bottes, maîtresse. C'est celle de mon frère. Ma maman a dit que je dois lui mettre. L'instit a envie de pleurer. Elle respire un grand coup et entreprend de remettre les bottes avec autant de difficultés. L'opération est réussie. La maîtresse est fière d'elle. Pour aller jusqu'au bout, elle lui fait enfiler son manteau, lui met son écharpe et lui demande « Où sont tes gants ?» Le gamin, pour ne pas les perdre, maîtresse, je les ai mis dans mes bottes. Je pense que cette situation aurait été peut-être vécue par un papa ou une maman. Et ici, c'était une maîtresse. Mais bien souvent, frères et sœurs, on s'aperçoit que l'enfantement, l'orgueil, peut nous faire perdre pied. Notre société est empreinte d'entêtement et d'orgueil. Il nous arrive parfois d'être entêtés, si entêtés dans certaines situations qu'on ne voit pas la réalité. Et ici, c'était une histoire de gants dans les bottes. Notre entêtement et notre orgueil peut nous faire perdre du temps, comme pour cette institutrice d'école. Je voudrais reprendre avec vous l'évangile de Matthieu. Je m'étais arrêté il y a quelque temps dans le chapitre 17 et nous allons reprendre à partir du chapitre 18. Le ministère de Jésus en Galilée est touché à sa fin. Bientôt, il quitterait cette région pour aller à Jérusalem vers sa mort. Matthieu 19 nous le dit au chapitre 1er. Mais il reste encore des leçons importantes à enseigner à ses disciples. Et le Seigneur, ici, dans le chapitre 18, va enseigner plusieurs leçons à ses disciples parce que certaines leçons sont importantes à apprendre. Le Seigneur devait partir, repartir vers son Père, et il était nécessaire que les disciples reçoivent cet enseignement avant que Jésus parte vers son Père. Je me suis posé la question, durant la semaine combien de fois le Seigneur a besoin de nous reprendre pour certaines choses jusqu'à ce que nous disions enfin au Seigneur, Seigneur, j'ai appris la leçon, Seigneur, c'est ok, je recommencerai plus. Et la question que je me suis posée, c'est celle-ci, combien de fois dois-je apprendre la leçon de la part du Seigneur? Ici, la leçon que le Seigneur va donner à ses disciples, c'est l'humilité. L'humilité que nous avons tellement besoin d'apprendre en tant que personne, même si nous sommes enfants de Dieu, nous avons besoin de l'apprendre, cette humilité, dans notre existence. Le chapitre 18, je lis à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me recevra moi-même. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits enfants qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on la jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'ils arrivent des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mais vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteuse ou manchot, ou d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que de n'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux et qu'il se perde un seul de ses petits. Alors, il y a beaucoup d'enseignements dans ces quelques versets. Je vais tout simplement prier avant de démarrer l'exhortation de ce matin. Seigneur, je veux te remercier pour la joie tout d'abord de t'appartenir. C'est vrai que c'est une grâce de t'appartenir. Et nous constatons, Seigneur, que ce monde a besoin aussi de grâce pour venir à toi, mais aussi, Seigneur, d'une grande humilité. Ce n'est pas forcément le cas, Seigneur, pour beaucoup de personnes qui nous entourent. Ils ont oublié l'essentiel. Ils ne te reconnaissent plus, Seigneur, en tant que sauveur et Seigneur de leur vie. Et nous avons besoin, Seigneur, de prier fortement pour ses amis, pour ses frères, pour ses parents qui ne t'écoutent pas. Ou qui ne veulent pas t'oublier, ou qui t'oublient tout simplement dans leur vie. Alors Seigneur, fais que nous puissions recevoir l'enseignement ce matin comme un petit enfant, que nous puissions comprendre que parfois les leçons sont nécessaires dans nos vies pour que nous puissions aller de l'avant. À toi on revient toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La prédication, Seigneur, enseigne-moi l'humilité. Pendant qu'il était à Capernaum, les disciples posèrent à Jésus cette question. Qui est le plus grand dans le royaume? J'ai lu un texte qui était en parallèle donc dans l'évangile de Marc. Ils se sont même disputés en chemin pour savoir qui était le plus grand dans le royaume des cieux. Ça devait les perturber, cette question, qui était le plus grand. Mais on a plein de questions dans notre société qui nous perturbent. Qui est le plus beau? C'est pas une question qui perturbe parfois les jeunes, qui nous perturbe aussi parfois, hein, n'est-ce pas, quand on se regarde dans la glace. Qui est le plus beau? Qui est le plus riche? Qui est qui parle le mieux? Qui réussit? Ce sont des questions, n'est-ce pas, que notre société se pose, et les disciples, eux, se posèrent cette question à un tel point où quand Jésus veut leur demander de quoi ils étaient en train de parler, c'était le silence total. Ils savaient bien qu'ils avaient discuté, ils avaient posé une question peut-être de trop, et que le Seigneur n'allait pas forcément répondre à leurs attentes. Par contre, je suis bien étonné de voir que quand Jésus veut nous donner une leçon, il se sert ici de petits enfants pour nous apprendre la leçon. Les enfants à l'époque n'étaient pas du tout considérés. Ils étaient vraiment, ils venaient parce que la famille était là, mais ils n'étaient pas l'aspect d'un enfant comme on le voit aujourd'hui. On dit souvent que l'enfant est roi dans notre 21e siècle. Je trouve que ça va un peu trop peu pour moi dans l'exagération. Mais en attendant, à l'époque de Jésus, l'enfant n'avait pas du tout de droit comme nous avons aujourd'hui. Et le Seigneur va reprendre de cet exemple-là, cette question que les disciples vont poser pour apprendre une leçon que les disciples avaient besoin d'entendre et de mettre en pratique dans leur vie. Le Seigneur nous dit que aucune négligence vis-à-vis des enfants, nous devons leur accorder toute leur importance, comme nous nous accordons parfois toute une importance, qu'il est bon de se rappeler que celui qui fait du mal à un enfant, eh bien, un jour, il aura des comptes à rendre à Dieu. Et le Seigneur rappelle tout simplement aussi que vaut mieux pour lui de se mettre une meule et de se jeter à la mer et que d'être une pierre d'achoppement pour l'un des enfants. Cela nous rappelle aussi à nous que l'enfant est très important dans votre foyer, qu'il doit être très important au sein de votre foyer. Et il y a deux vérités que je voudrais juste vous rappeler en tant que parent ce matin. Alors, paraît-il, la dernière fois c'est la fête des mamans, je pensais que Claude allait offrir des roses aux parents. Ça n'a pas été le cas, mais moi je voudrais vous offrir deux enseignements ce matin importants dans le fait que vous avez en tant que père et mère une responsabilité pour vos enfants. Deux grandes vérités. Tout d'abord, il est nécessaire que votre enfant comprenne ce que c'est la conversion. Un enfant a autant de droits qu'un adulte aux yeux de Jésus. Et le Seigneur rappelle clairement qu'un enfant doit changer son cœur comme un adulte doit changer son cœur, puisqu'il a rappelé cela à Nicodème au chapitre 3 de Jean. Mais qu'un enfant doit aussi changer son cœur pour accéder au royaume éternel. Et c'est important pour nous en tant que parents de comprendre la nécessité que l'enfant reçoive l'enseignement approprié pour qu'il ait lui aussi le désir de rentrer dans la vie éternelle avec son Père Céleste. C'est pas parce que vous héritez d'un papa et d'une maman chrétienne que forcément vous allez aller au ciel. La Bible ne le dit pas. C'est pas parce que votre enfant va œuvrer pour les œuvres de justice et qu'il va aller dans le ciel. La Bible dit qu'il faut qu'il devienne une nouvelle créature en Christ. Comme il a dit à Nicodème, un enfant doit aussi recevoir Christ dans sa vie. Ça vous donne une responsabilité en tant que parent. C'est de vous lever le dimanche matin pour que vos enfants entendent parler de Jésus. Voilà une responsabilité que vous avez, c'est de vous lever le dimanche matin pour que votre enfant entende parler de Jésus. Deuxième responsabilité, c'est que nous devons comprendre que Jésus s'accepte comme un enfant. Vous savez, l'entêtement et l'orgueil éloignent l'humanité de Jésus. Et malheureusement, bien souvent, des hommes et des femmes ne rentrent pas dans le royaume parce qu'ils s'entêtent. Ils ne veulent pas croire en Dieu. Ils ne veulent pas croire en Jésus. Et leur entêtement les fait complètement divaguer dans leur pensée, dans leur manière de croire, dans leur manière d'agir. Ils oublient carrément Dieu. Et Dieu leur rappelle simplement que si tu veux aller dans le royaume de Dieu, tu dois avoir un cœur comme un enfant. Voilà une responsabilité, n'est-ce pas, pour notre part aussi. Et nous, en tant que parents, bien, nous avons besoin de comprendre que pour gagner une personne, eh bien, nous devons prier pour que cette personne ait un cœur totalement d'un enfant. Vous savez, un enfant est dépendant de son père et de sa mère. L'enfant place sa confiance en son père et sa mère. L'enfant a rien dans ses poches, je dirais au départ. Après, quand les parents ont mis des choses dans ses poches, alors là, ça change tout. Mais un enfant, n'est-ce pas, il est attentif à ce que papa et maman disent. Ce matin, il a été dit que pour que le papa devienne un exemple, waouh! Toi, le matin, frère, tu es un exemple pour ta famille. Ça va changer ta façon de vivre. Hein. Et je pense que nous avons besoin de nous le rappeler que l'enfant qui est dans ton foyer a besoin de Jésus aussi. Quelqu'un a dit un jour, pour définir l'humilité, la vraie humilité ne consiste pas à avoir une piètre opinion de soi, mais simplement de ne pas penser à soi du tout. Voilà une bonne définition de l'humilité. Ne pas penser à soi du tout. Nous ne sommes pas du tout dans cela, n'est-ce pas, dans le 21e siècle, où on pense d'abord à soi, avant de penser à l'autre. De penser à soi-même, d'abord de penser à l'autre. Alors, quatre choses essentielles dans l'humilité, et c'est dans le texte, je vais vous les donner. Tout d'abord, nous avons besoin d'humilité. Verset 1, c'est pas une question là que nous devons nous poser, c'est que nous avons besoin d'humilité. Et que parfois, le Seigneur a besoin de nous donner des leçons pour apprendre l'humilité. Cette maîtresse avait besoin de se rappeler que parfois son entêtement, elle se serait arrêtée 30 secondes dans son cœur. Elle aurait peut-être compris qu'il y avait des vents dans les vents. Et nous sommes parfois pareils, n'est-ce pas? Nous avons besoin parfois de nous arrêter dans notre vie 30 secondes pour s'apercevoir que notre entêtement et notre orgueil peut nous éloigner complètement de Dieu. Peut nous éloigner complètement de son plan, du Seigneur, peut nous éloigner complètement de ce que Dieu veut pour notre vie. Nous avons besoin de nous le rappeler. Qui est le plus beau? C'est pas la question. Qui est le plus grand? C'est pas la question. Je pense que nous avons besoin de nous rappeler en tant qu'enfants de Dieu que l'égoïsme n'a pas sa place dans l'Église. L'entêtement n'a pas sa place dans l'Église. Le Seigneur a besoin parfois de nous rappeler cela. Malheureusement, si vous connaissez la Bible comme moi-même, vous allez vous apercevoir que dans l'église locale, de l'église primitive, il y avait beaucoup de rivalités, il y avait beaucoup de personnes qui se disputaient et qui ont fait des divisions. Vous savez, récemment, on m'a posé cette question, mais pourquoi il y a tant d'églises dans notre société? À cause de votre cœur. En tout si. C'est la réponse que j'ai envie de donner régulièrement quand on me pose cette question. Pourquoi il y a tant d'églises? À cause de votre cœur. Parce que tout simplement, les rivalités ont toujours existé, l'orgueil a toujours existé, l'entêtement a toujours existé. Dieu n'a pas changé cela. Et s'il y a tant d'églises, s'il y a tant de dénominations, c'est à cause de votre cœur. Voyez-vous, il n'y a pas besoin de se poser ce genre de questions dans la réalité. Si nous comprenons le cœur du Seigneur, un cœur sans Jésus, eh bien il va y avoir de l'égoïsme. Un cœur sans Jésus, il va y avoir de l'orgueil. Un cœur sans Jésus, il va y avoir de l'entêtement, de la rivalité, des disputes, des choses contraires à la parole de Dieu. Et nous en avons besoin, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que dès le commencement, c'est l'orgueil qui a séparé Dieu de l'homme. L'homme de Dieu, pardon. Et nous avons besoin, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de le comprendre. Nous avons besoin d'une unité dans notre société. Dans notre vie d'église, nous avons besoin d'une unité. Deuxième chose essentielle que le Seigneur veut apprendre ici, c'est l'exemple de l'humilité. Qui est le plus grand? Moi, j'aurais été là-bas, j'aurais dit le plus grand c'est Pierre. Pourquoi? Parce que lui a marché sur les eaux. Moi, quelqu'un qui marche sur les eaux, pour moi c'est le plus grand. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà marché sur les eaux. Si, j'ai déjà marché sur une plaque. Mais dans, sur des eaux, j'aurais été. Enfin, on me considérerait comme le plus grand. Hein. Moi, si vous me voyez sortir d'une barque et marcher sur une plaque, c'est une chose. Si je sors d'une barque et que je ne rentre pas dans l'eau, moi, à mon avis, vous allez me considérer comme le plus grand. Hein. Moi, j'aurais dit Pierre. Certains auraient dit, non, non, pas Pierre, un orgueilleux, un penseur. C'est pas Pierre le plus grand, c'est Nathanaël. Nathanaël, pourquoi? Parce qu'il est juif. Nathanaël était considéré comme un juif. Donc c'est lui qui devait être le plus grand, mais c'est pas dans le royaume de Dieu. Non, non. Le Seigneur a dit ni Pierre, ni Nathanaël, Matthieu. Matthieu, c'est le plus grand. Matthieu, c'est le plus grand pourquoi? Parce qu'il a fait l'évangile. Lui, il a été écrivain. Lui, il a écrit un évangile pour Jésus. Et Jésus dit rien de tout ça. Jésus dit rien de tout ça. Il dit simplement que attention à votre manière de faire dans votre vie ici-bas sur cette terre, de votre manière de penser, de votre manière de réagir vis-à-vis de certaines situations. Ici, c'était des enfants qui n'étaient pas bien considérés. Et le Seigneur leur rappelle tout simplement que vaut mieux faire attention à ce que vous faites dans votre quotidien. Vous savez, il y a deux manières de la vraie humilité, en tout cas, je la considère comme ça. Celle qui glorifie le Seigneur, c'est se mésestimer ou se surestimer. Mésestimer. C'est Moïse. Moïse, c'est mésestimer. Je n'ai pas la parole facile. J'ai besoin d'un interprète. J'ai besoin de quelqu'un à côté de moi pour parler à ma place. C'est ce que Moïse a dit à un moment donné à Dieu. Tu veux m'envoyer en Égypte? Mais le Pharaon me connaît. Et je ne sais pas parler. Je ne sais pas m'exprimer. Et Dieu est obligé de lui dire, mais je suis le créateur de ta langue. Hein. Si tu dis beaucoup d'âneries parfois, je peux la maîtriser à un moment donné dans certaines situations. Je peux donner même les mots que tu devras dire dans certaines situations. Et Moïse a été obligé à un moment donné de reconnaître cela. Alors c'est vrai qu'il lui a donné Pharaon à côté de lui, mais parce que sûrement il a dû être, il avait plus envie d'écouter Moïse. Et je pense que nous, souvent, nous nous sous-estimons. Nous, Dieu nous donne des choses, et au lieu de les mettre à l'œuvre pour le Seigneur, eh bien, nous les négligeons pour la gloire de notre Seigneur. Surestimer. Ça, on est un spécialiste de nous surestimer. De dire qu'on est plus fort que l'autre. De dire qu'on est meilleur que l'autre. De dire qu'on peut faire mieux que les autres. Je voudrais vous laisser un verset. Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir le sentiment modeste selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. De ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Vous savez, ça remet les pendules à l'heure hein, quand on lit un verset comme ça. Ça nous remet à l'heure. Hein. Même si on n'est pas à l'heure, là, ça nous remet à l'heure. Hein. De ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Une personne réellement humble ne méprise pas le don et les talents que Dieu lui a donné, mais le met au service du Seigneur. Et je crois que nous avons besoin dans cet enseignement de savoir, de dire, au lieu d'être rebelle, d'être un serviteur pour le Seigneur. Au lieu d'être une célébrité, d'être un serviteur pour le Seigneur. Une petite histoire supplémentaire. J'ai assisté le 19 mai à un culte dans une église en Arizona. L'église de Camelback. Alors pourquoi l'église s'appelle Camelback? Parce que juste à côté, vous avez une montagne qui s'appelle le Camel. Donc le Camel est égal à un chameau, d'autres chameaux. Donc si vous voyez cette église, eh bien, vous dites à la ville, vous pouvez toujours s'appeler Camelback. D'accord? Parce que juste à côté, il y a la montagne de Camel. Dans cette église, le jour où j'ai assisté au culte avec mon épouse, juste en face de moi, j'ai une preuve, je l'ai dans mon téléphone portable, juste en face de moi, il y avait Alice Cooper. Qui connaît Alice Cooper? Oui?
J'ai entendu parler de sa conversion.
Voilà, très bien. Alors, Alice Cooper, chanteur, interprète, compositeur, art rock américain dans les années 70. Quand mon ami me l'a présenté, j'ai dû faire un travail de mon esprit pour me rappeler dans les années 70-80, ce monsieur était très connu dans les années 70-80, ce monsieur, quand il faisait ses concerts, il avait du sang dans la bouche et quand il chantait, c'était vraiment horrible, hein, parce qu'il n'était pas toujours apprécié. Mais j'ai dû faire un travail dans mon esprit pour voir ce monsieur avec du sang dans la bouche. Je ne voyais pas ce monsieur, comme je le voyais là, comme vous, Alice Cooper. Et alors, après, me dit Alice Cooper, alors je prends Internet, je vais sur mon téléphone, Alice Cooper. Waouh, j'ai fait la rencontre d'un hard rocker converti à Camelback. Ce monsieur a été présenté par mon ami. Il est venu me voir. Un monsieur très discret, il n'avait pas de sang du tout dans sa bouche, un monsieur très discret, converti à l'évangile depuis quelque temps, un monsieur doux et humble, un monsieur qui avait compris que Jésus avait changé complètement sa vie. Si vous allez sur Internet, que vous tapez Alice Cooper, vous allez voir qu'il va vous parler de la conversion de Jésus-Christ et ça a complètement changé sa vie. Il prie pour la France, il aime la France, il me l'a certifié. Il m'a dit même en français, j'aime la France et je prie pour vous. C'est pas beau ça? C'est pas beau, je me dis, voilà, j'étais rencontré une célébrité, un monsieur qui est très connu internationalement, qui va dans cette église et que Jésus a complètement transformé sa vie. C'est pas merveilleux ça? Mais je me dis, mais c'est ça la conversion, c'est ça la repentance, c'est ça croire en Jésus-Christ. Alors ça ne veut pas dire qu'il a arrêté d'être célèbre, hein, parce qu'il est toujours célèbre, il fait toujours des concerts, mais mon collègue m'a certifié que ses chansons sont moins hard rock aujourd'hui que ce qu'elles étaient auparavant. Oui, Dieu veut changer notre vie. Et c'est important de le savoir, de le comprendre, mais en même temps, en comprenant ce que c'est cet aspect d'humilité, eh bien, ça nous fait penser que une personne qui veut se convertir doit comprendre cet aspect. Mettre de côté son orgueil, mettre de côté son entêtement, mettre de côté ce qui ne glorifie pas le Seigneur pour l'accepter dans son cœur. Et la conversion doit passer par la régénération. La régénération dans la Bible, c'est un enseignement qui est donné, c'est-à-dire c'est un changement total de vie. C'est-à-dire que vous alliez comme ça, si Dieu, si Jésus vous convertit, vous acceptez Jésus dans votre cœur, vous changez de chemin et vous revenez complètement en arrière. Est-ce que vous devez oublier le passé? Bien sûr que non. Le passé nous accompagnera, nous accompagnera jusqu'à la fin de notre vie. Mais nous devons changer notre attitude, notre comportement en tant que chrétien. Et je pense que l'humilité doit faire partie de notre quotidien en tant qu'enfant de Dieu. Troisième chose essentielle, le prix de l'humilité. Je pense que le Seigneur là nous rappelle que si tu n'es pas humble, il faut te couper un bras, te couper un membre du corps pour rentrer dans le royaume des cieux. Alors je me suis posé la question, si un voleur qui a volé toute sa vie, imaginez un peu la situation, il dit, bon, je veux aller au royaume des cieux, donc pour aller au royaume des cieux, je vais me couper la main, parce que cette main est la plus grande voleuse de toute la région. C'est pas ce que le Seigneur est en train de dire. Hein. Il y aurait dans le ciel beaucoup d'estropiés, hein. Beaucoup d'handicapés. Hein. Dans nos églises, plusieurs sur le banc seraient en fauteuil roulant. Hein. C'est pas ce que le Seigneur est en train de dire. Hein. Le Seigneur est en train de faire prendre conscience à ses disciples que le salut est quelque chose d'important. Et que le salut a besoin parfois d'une opération chirurgicale spirituelle. Pour avoir un réel changement dans notre vie, on a besoin d'une opération divine. Est-ce que vous comprenez cela? Moi, j'ai eu besoin d'une opération divine. Sinon, je savais que je n'allais pas dans l'éternité. Le Seigneur a besoin de nous changer totalement par contre. Et l'humilité, le chrétien doit l'apprendre dans son existence parfois. Ça demande parfois des difficultés à comprendre. Je voudrais revenir à l'institutrice du départ. Quelle perte de temps, n'est-ce pas? Son entêtement. Ça nous fait rigoler. Mais quand ça arrive à nous, pensez-nous qui sommes entêtés ou orgueilleux dans certaines situations. Ça ne fait pas si rigoler que ça, n'est-ce pas? Quand vous voyez un ami, un frère, un parent s'entêter, s'enorgueillir, ça ne fait pas si rigoler que ça. Ça ne fait pas si rigoler que ça. Alors que nous puissions apprendre cet aspect de l'humilité. Je voudrais terminer par un passage que vous connaissez. C'est Éphésiens, chapitre 2. Les versets 1 à 10. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'unité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a même paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous savez pourquoi ce passage a été écrit? Parce que dans l'église de Philippe, il y avait Hérodite et Saint-Tiche qui étaient en train de se disputer. Il y avait une rivalité. Et Paul est obligé de rappeler cela à ces deux personnes, que prenez l'exemple sur Jésus. N'oubliez pas Jésus. C'est-à-dire, si Jésus est votre exemple, eh bien, dans la vie de tous les jours, vous n'allez pas vous rivaliser, vous n'allez pas vous entêter, vous n'allez pas devenir orgueilleux, mais vous allez être unis en Christ, et c'est ce qui est le plus important. Alors que nous puissions apprendre de cette leçon, que le Seigneur change notre cœur, afin que nous ayons des attitudes qui le glorifient, des attitudes qui sont toutes à la gloire de notre Seigneur, dans notre foyer, dans notre vie de tous les jours, dans notre lieu de travail. Parfois, on a besoin d'une grande humilité. On m'a dit souvent que le silence est d'or. Des fois, on a besoin de s'exprimer, mais des fois, le silence s'exprime par lui-même. Et je crois en toute honnêteté au bon sens dans le silence. Dieu ne veut pas toujours qu'on parle dans certaines situations. Dieu ne veut pas forcément qu'on agisse dans certaines situations. Dieu ne veut pas forcément que nous nous endettions dans certaines situations, mais que nous gardions le silence devant le Seigneur. Je pense que c'est quelque chose que nous devons apprendre. Je voudrais terminer par une promesse. Et j'essayerai dimanche après dimanche de terminer par une promesse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites reconnaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que ce verset vous accompagne durant cette semaine dans chaque chose que vous allez entreprendre à partir de lundi. Amen.